qu'on n'est pas oui. rentré dans comment les aider.
D'accord, c'est parti.
Alors, juste trois petites choses. C'est chaque enfant est différent, chaque enfant réagit de manière différente. Et donc, en fait, ils ont plusieurs façons de réagir. On en a parlé un petit peu comme ça, de façon rapide. Certains s'accrochent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour réussir, et ils font leur petit bonhomme de chemin à travers la scolarité sans problème. Certains s'accommodent du système, en attendant des jours meilleurs. En général, ils traversent leur scolarité sans aucun souci. Et puis, certains sont plus fragiles. C'est cela. Ah. Et ils sont souvent mal insérés dans leur groupe classe, et ils peuvent se retrouver en situation d'échec. Donc on retrouve celui qui fait le clown en classe pour se faire remarquer et se faire accepter, l'enfant anxieux qui réussit tout mais qui est sous pression perpétuelle que personne ne comprend pourquoi. Il y a celui qui a renoncé, qui est complètement passif au fond de la classe. Il y a l'enfant qui se rebelle, qui se heurte à l'autorité. Et puis il y a ceux qui essaient de s'adapter et qui pètent littéralement les plombs, je ne sais pas comment dire autrement, à la maison, montrant bien la souffrance qu'ils ressentent à l'école. En bref, ça c'était pour vous dire que quel que soit ces enfants-là, ils font énormément d'efforts pour se faire accepter et s'intégrer, souvent au détriment de grandes souffrances intérieures qu'on ne note pas. On les voit arriver en consultation extrêmement déprimés, ça je dois le dire, et il faut impérativement prendre leurs efforts en compte. C'est ce qui nous amène à la dernière partie. Alors comment les aider? Quelques pistes hein, qui sont ce qu'elles sont. Hein. Petit 1, en reconnaissant ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, vraiment toujours bien penser que c'est l'affectif qui prime chez eux. Ne pas hésiter à leur parler, en n'oubliant pas qu'ils sont extrêmement sensibles. Il faut accuser réception de leurs difficultés, donc comprendre qu'ils sont des difficultés, leur dire qu'on comprend, et noter leurs efforts. Un enfant qui déteste écrire et qui se met à copier toute une leçon, il ne faut pas rien dire, hein. Il faut lui faire un petit signe. Chapeau, lui dire quand il sort des cours « Bravo aujourd'hui », juste lui montrer qu'on a vu l'effort qu'il a fait. Vous verrez, hein, ça fait énormément. Énormément parce que ça prend sens pour eux. Ils font quelque chose et c'est noté. N'hésitez pas non plus à leur demander comment on peut les aider. Ils ont plein d'idées. Mais alors, plein. Et alors, par rapport aux consignes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand la réponse n'est pas adaptée, n'hésitez pas à leur demander « Mais qu'est-ce que tu as compris de ce que je te demandais ?» Et là, vous allez voir qu'ils ont compris soit le sens littéral de la question, soit un implicite que vous n'aviez pas perçu, soit ils ont complexifié une question ultra simple parce que ce n'est pas possible qu'on leur demande ça. Et vous allez voir qu'en fait, ce n'était pas adapté parce qu'ils n'ont pas compris l'implicite de la question. L'humour.
Est-ce qu'il y a des blocages des fois dans une situation nouvelle ?
Oui, c'est ça, c'est par rapport à l'écrit, on le voit beaucoup, hein. Beaucoup de situations par rapport à l'écrit où ils sont complètement bloqués.
Je pense en maternelle,
la peur de l'échec. Oui, je sais que, oui, ça c'est oui. L'anxiété. Hein. L'anxiété qu'ont ces enfants-là peut leur faire avoir ce genre de blocage. L'humour, ils sont très très sensibles à l'humour, n'hésitez pas à l'utiliser. Ils aiment en faire, ils aiment les jeux de mots. Un petit bémol quand même, attention à n'en pas en faire trop sur eux. Ce sont des enfants très sensibles, à fleur de peau, et qui sont extrêmement susceptibles en général. Et ils peuvent prendre très très mal de l'humour sur eux-mêmes. Le cadre, parce que tout ça, ça ne veut pas dire que je vous dis qu'il faut laisser faire tout ce qu'ils veulent. Entendons-nous bien. Ce sont des enfants qui, comme tous les enfants du monde, ont besoin d'un cadre. Il faut du temps on peut passer du temps à leur expliquer le pourquoi, mais après il faut le respecter. J'ai envie de prendre un exemple, c'est-à-dire qu'un enfant qui vous trouve une opération, qui vous donne le chiffre comme ça, vous pouvez dire bah, c'est super, je suis ravie pour toi, et lui dire bah, continue comme ça, c'est très bien, mais vous pouvez aussi lui dire bah, c'est très très bien ce que tu as trouvé comme résultat, mais moi, c'est pas ma méthode, ce que je vais te demander, c'est d'apprendre une autre méthode. Je sais que c'est difficile pour toi, je vais t'aider, on va y arriver ensemble, et après tu pourras vérifier ton résultat avec ta méthode à toi. Parce que s'il fait la soustraction comme ils ont l'habitude de les faire, que je ne peux pas vous expliquer en deux mots, personne ne pourra vérifier s'ils l'ont copié sur un voisin, ce qui est vrai, ou s'ils l'ont vraiment intégré. Donc il va falloir quand même mettre des règles. Et il va falloir qu'ils s'y plient. C'est compliqué, mais si vous leur expliquez pourquoi, il y a de grandes chances qu'ils y rentrent. En plus, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est éviter la négociation, parce que ce sont de redoutables négociateurs. Ils adorent la rhétorique, et je peux vous dire un truc, vous n'êtes pas sûr d'avoir le dernier mot. Alors, le travail supplémentaire, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pour certains, cela peut répondre à un besoin. Particulièrement dans les petites classes, ils sont ravis d'avoir du travail en plus. Dans les classes ensuite, je dirais à partir du CE2, mais vérifiez toujours qu'ils ne prennent pas ça comme une punition. Donc, les travaux supplémentaires uniquement sur leur grande zone de prédilection. Pour ceux qui travaillent vite, on peut les laisser lire et dessiner en attendant les autres pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Mais enfin, on a vu que ce n'est pas toujours le cas, ils ne vont pas forcément toujours très vite. Hein. Par contre, une petite recommandation, quand vous les voyez partir dans leur imaginaire, là, ils sont partis sur la plage à pêcher des crabes, n'hésitez pas, quand vous arrivez à une leçon nouvelle, de leur faire un petit signe pour dire « on est passé à autre chose, reviens avec nous ». Et alors, ce qui peut se faire aussi, qui marche pas mal, c'est d'approfondir, leur demander d'approfondir un sujet qui les passionne, sous forme d'exposé. Ça, par contre, vous allez avoir des résultats fabuleux. Hein. Ils vont aller chercher des trucs, ils vont passer des heures à rechercher, ça va être fouillé, intelligent, intéressant, documenté. Et là, je pense que c'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est des enfants qui sont passionnés en général par l'astronomie, par l'histoire. Ils sont férus d'histoire en général, de toutes sortes. D'ailleurs, et ils sont souvent très intéressés par la physique-chimie, parce que c'est à base de recherche et d'expérience, et ça, ça leur plaît énormément pour faire de la cinquième. Alors, j'en arrive au saut de classe, qui est donc, comme on a déjà parlé, c'est une solution qu'il faut envisager parfois. Les classes qui sont sautées en général dans le cursus scolaire, c'est la grande section, le CP et le CE2, si, c'est ce que je vois moi en tous les cas. Pour les collèges, il y a peu de propositions de saut de classe. J'ai entendu et j'ai vu à ma petite échelle des sauts de classe de 6e qui se sont plutôt bien passés. Un seul saut de classe de 4e qui n'a pas abouti. Donc j'ai pas de recul là-dessus, je ne peux pas vous dire. Mais c'est très peu proposé par les établissements après le primaire. Alors ça reste une solution pour que les enfants soient mieux intégrés à l'école. Ça ne correspond pas pour autant à tous les enfants. D'abord, le degré d'anxiété est à mesurer, parce que chez les enfants anxieux, ça peut être plus nocif que bénéfique, ça leur met encore plus de pression. Il faut aussi, si l'enfant est bien intégré dans son groupe classe, se méfier qu'il ne perde pas ses camarades. C'est des enfants qui souvent ont du mal à se faire des amis, donc s'ils sont bien intégrés, attention. Voilà. Et puis, il reste des situations familiales compliquées. Ils se retrouvent parfois dans le même niveau scolaire que leur frère ou leur sœur aînée. Et puis, parfois, ils ont un frère ou une sœur jumelle. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Tout ça, vous l'avez compris, c'est une histoire d'équilibre qui doit tenir compte du degré de malaise de l'enfant, du bienfait produit par le saut de classe et du déséquilibre familial induit. J'en arrive au changement d'établissement en vous disant qu'il arrive qu'on en arrive là. Souvent pour un établissement spécialisé, donc il en existe quelques-uns dans la région. On peut proposer aussi des établissements tels Montessori ou Steiner, qui parfois sont la solution pour ces enfants-là. Oui. Il n'y en a qu'un seul ici dans la région qui est public et qui propose, je crois, un concours d'entrée, ce qui est quand même assez compliqué pour les enfants. Alors, il nous arrive de préconiser cette solution. C'est pas facile parce que... Pardon ?
Est-ce que ça marche ?
Les changements d'établissement ? Tout est relatif. Ça dépend quand. Ça dépend quand. Parfois, c'est un peu trop tard et ça marche pas. Et puis, parfois, ce que je veux dire, c'est que c'est une solution, c'est pas la solution. On va être d'accord avec ça, mais comme tout, hein, il n'y a pas deux solutions. Hein. D'abord, il faut rentrer dans ces établissements spécialisés. Les places y sont chères et je ne parle pas que de finances. C'est aussi un changement radical de vie pour les familles. Ça signifie souvent prendre un bus, accompagner les enfants à deux écoles différentes. C'est une désorganisation familiale et il faut que ça en vaille la chandelle, quoi. Il faut vraiment mesurer le pour et le contre. Parfois, en tous les cas, quand on fait un changement d'établissement dans une classe qui n'est pas spécialisée, donc on change l'enfant d'établissement, ça on le préconise parfois quand les enfants n'arrivent pas du tout à s'intégrer au groupe classe. Et du coup là, ils peuvent repartir de zéro. Ils ne sont pas connus et si on leur a expliqué comment mettre en place les codes, ils arrivent à s'intégrer de façon meilleure. Mais c'est pareil, ce n'est pas la solution. Les petites aides techniques, donc comme tous les enfants, ils ont besoin parfois d'aides plus particulières. La psychomotricité, pour les aider à être plus à l'aise dans leur corps, on en parlait tout à l'heure. Pour les aider à se concentrer aussi, c'est une bonne démarche. On peut utiliser aussi la psychomotricité ou la graphothérapie. C'est comme vous voulez. Quand l'écriture est trop difficile et vraiment trop lente, ça peut les aider. La psychothérapie peut être indiquée quand les enfants sont vraiment trop anxieux ou quand les difficultés avec leur père sont trop importantes. On peut, et c'est souvent des enfants qui ne restent pas longtemps en psychothérapie parce qu'ils prennent très vite les informations, ils s'en servent très bien. Et souvent, c'est des enfants qu'on voit de façon très espacée et pas longtemps. Et ils reviennent comme ça de façon périodique quand ils ont un petit coup de choses difficiles. Après, on en revient à ce que vous disiez, ou ce que tu disais aussi, tout ce qui est dyslexie, tous les 10 sont à prendre en charge par les orthophonistes, les ergothérapeutes, voilà, ça c'est autre chose. Alors en conclusion, je voulais juste vous dire qu'il ne faut pas oublier que ces enfants, ça reste des enfants à part entière. Ils ont les mêmes besoins que les autres enfants, avec les mêmes différences d'un enfant à l'autre. Chaque enfant est unique, il n'y a pas de recette. Je connais, j'entrevois bien les difficultés dans lesquelles vous trouvez dans ces classes de 25 ou 30 élèves différents. C'est vrai que d'entendre qu'un enfant avec un tel potentiel ne parviendra pas à l'exploiter, ça ressemble un peu à du gâchis quand même. Mais l'essentiel, c'est de faire au mieux en partenariat avec les parents et l'enfant lui-même. De les prendre en compte pour ce qu'ils sont, de noter leurs compétences plutôt que leur incompétence. Bref, tout cela, je crois que vous le savez déjà, j'ai bien compris. Ce que je perçois quand même dans mon cabinet à ma petite échelle, c'est l'incompréhension qui existe encore, qui persiste encore auprès de ces enfants. Il est intelligent, donc il doit briller. Mais je constate, de par la présence de tous ici et de ce que j'entends aussi un peu, que tout le monde se rend bien compte que ce n'est pas aussi simple aujourd'hui. Ce sont des enfants, des adultes. Je dois le dire quand même que souvent il y a des familles IP. Quand il y a un enfant IP, on trouve souvent des parents IP, des grands-parents IP, des oncles ou des tantes IP, qui sont tous enfants et adultes, riches, profonds, souvent très attachants. Et si on reprend l'appellation d'Olivier Revol, qui est un pédopsychiatre qui a écrit un livre qui s'appelle « Même pas grave », il parle, lui, dans ce livre, d'enfants sentinelles, et peut-être que ces enfants préparent notre avenir, qui sait. Ces nouvelles, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les interrogations qu'ils nous posent sont peut-être les interrogations de demain. Voilà.
Avez-vous des questions?